La voix des jeunes.
Développer notre esprit critique et notre regard sur la société.
Favoriser notre capacité à communiquer efficacement.
À nous exprimer.
Mais aussi à écouter.
Comprendre les médias.
Prendre confiance en soi. Apprendre à gérer notre stress et nos émotions.
Partager nos opinions.
Savoir collaborer.
Tout en nous affirmant.
La voix des jeunes.
Le programme radiophonique d'Info RC.
Radio associative en milieu scolaire.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Info RC. Aujourd'hui, je vous propose de connaître le PNR, le Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche, en compagnie de Madame Jacquiot Chamska et son travail.
Bonjour Madame, et merci d'avoir accepté de venir à l'antenne pour nous présenter votre métier. Vous travaillez en effet pour le PNR des Monts d'Ardèche, et plus précisément, vous êtes chargée de production artistique et de sensibilisation au territoire.
Tout d'abord, nous aimerions que vous nous expliquiez ce qu'est un parc naturel régional.
Bonjour à vous. Donc, un parc naturel régional, il y en a en fait plusieurs, plus d'une cinquantaine en France. C'est une spécificité française. Ici, nous sommes sur le parc naturel régional des Monts d'Ardèche et Aubenas, c'est une des deux villes-portes avec Privas sur ce parc. Le parc, il est composé de 152 communes, donc c'est à la fois un territoire et c'est à la fois une collectivité publique avec une équipe qui mène des projets justement collectifs, communs sur le territoire, sur des sujets qui vont intéresser les communes, les communautés de communes, les élus, les habitants, les scolaires, autour de grandes missions, on va dire, ou de grandes idées qui sont la préservation des espaces naturels et de la faune et de la flore, mais aussi le développement économique et touristique, l'aménagement, l'innovation, et puis l'information, ce qui se traduit souvent par les projets éducatifs auprès des élèves, mais aussi auprès des habitants.
Quelle est la spécificité du parc naturel régional des Monts d'Ardèche ?
Alors, la spécificité de ce parc-ci, donc il a été créé en 2001, donc c'est un jeune parc, il y a des parcs qui ont plus de 50 ans, c'est qu'il a été créé par des castanéiculteurs. Les castanéiculteurs, ce sont en fait les gens qui ont des vergers de châtaignes. Et vous savez que la châtaigne, c'est un peu le symbole de l'Ardèche. Et les castanéiculteurs, en fait, ils ont voulu protéger la châtaigne, les vergers, et créer une AOP pour justement faire reconnaître ses qualités au niveau régional, mais aussi au niveau national. Et c'est à partir de là, en fait, qu'a été créé le parc des Monts d'Ardèche, qui a aussi comme particularité de se développer donc sur un territoire, on est à peu près sur la moitié du département de l'Ardèche, mais aussi sur quelques communes de la Haute-Loire. Et donc le parc des Monts d'Ardèche, en fait, il va depuis ce qu'on appelle le Piémont, il monte sur les pentes et il arrive jusqu'à la montagne ardéchoise où il y a un autre AOP qui est celui du Fingras du Mézin.
Quel est le fonctionnement de votre structure et les différents services ?
Alors, je disais que c'était une collectivité publique, donc en fait c'est un syndicat mixte. Ça veut dire que ceux qui prennent des décisions, ce sont des élus et en particulier des représentants des communes, des communautés de communes, des départements et de la région qui appartiennent au parc des Monts d'Ardèche. Ensuite, il y a une équipe qui est dirigée par une directrice et il y a plusieurs services, effectivement, avec des agents, des chargés de mission, comme moi, qui vont avoir des métiers très différents. Autour plutôt de la protection des espaces naturels et du développement, autour de l'éducation, de la culture et du tourisme, autour de la communication, et autour de tout ce qui est quelque chose que l'on voit peut-être moins quand on est à l'extérieur, qui est l'administration et les finances, puisqu'il faut aller chercher de l'argent pour pouvoir faire des projets.
Combien de personnes travaillent au PNR ?
Alors, on est donc dans l'équipe du parc, qui est basée donc à Jaujac. On est une petite trentaine de personnes, ce qui n'est pas énorme pour le grand territoire dont je vous ai parlé et les 152 communes avec lesquelles on travaille. Et la particularité, en fait, c'est que donc, avec mes collègues, on a en général tous des métiers très différents. On est dans des services, on va dire, qui sont composés, ce que je disais par exemple, éducation et culture, mais on va chacun avoir des missions et un métier un peu différent.
Maintenant que nous connaissons le fonctionnement du PNR des Monts d'Ardèche, pouvez-vous nous expliquer votre métier qui consiste à la sensibilisation au territoire et à la production artistique ?
Alors, moi, je suis arrivée au parc des Monts d'Ardèche en 2015. Donc ça fait 9 ans maintenant, et j'ai été recrutée, donc j'ai passé un entretien avec d'autres personnes, c'est moi qui ai eu la chance d'être retenue, pour donc m'occuper de production artistique, et en particulier d'un projet qui s'appelle le Partage des Eaux, qui est donc un parcours artistique qui a été fabriqué, créé sur la montagne ardéchoise. Donc mon métier à moi, dans ce cadre-là, c'est de travailler avec les artistes pour les aider à fabriquer leurs œuvres, en allant chercher les financements, en allant sensibiliser, parler avec les habitants, les élus, pour leur expliquer pourquoi il y a cet artiste qui vient, ce qu'il va faire, est-ce que ça va les déranger, est-ce qu'ils ont des choses à raconter sur les lieux où les œuvres vont avoir lieu, par exemple. Pour aller travailler avec les artisans ou les entreprises qui ont aidé les artistes à fabriquer les œuvres. D'accord ? Je disais que le parc, c'est un grand territoire, mais le parc lui-même, la structure du parc, ne possède aucun terrain. C'est-à-dire que, par exemple, les œuvres du Partage des Eaux sont toutes créées sur des terrains publics qui appartiennent à les communes ou parfois chez des terrains privés. D'accord ? Donc ça, c'est mon métier de production artistique qui se poursuit aujourd'hui. Et par exemple, aujourd'hui, on a moins de fabrication d'œuvres puisque une grande partie du parcours a été ouvert en 2017, même si ensuite d'autres œuvres ont été créées. Je m'occupe aussi de la maintenance, de l'entretien des œuvres. Comment ces œuvres, elles vont durer dans le temps ? Et comment on fait pour qu'elles ne s'abîment pas ? Faire intervenir des artisans qui vont venir réparer, repeindre, etc. par exemple. Et puis, j'ai une casquette de sensibilisation au territoire, c'est-à-dire que pour que ces œuvres qui arrivent dans le paysage comme ça, à proximité des villages, à proximité des endroits où des gens vivent, que ça soit pas gênant, perturbant, qu'ils se disent pas, mais c'est quoi ce truc ? On a inventé tout un programme d'information, de sensibilisation, d'abord auprès donc des habitants, des villages, des gens, pour leur dire voilà, il va y avoir une œuvre, qu'est-ce que ça raconte, pourquoi est-ce qu'on fait ça, qu'est-ce que ça peut apporter d'avoir de l'art, à quoi ça sert, un artiste, etc. Et puis des projets aussi spécifiquement pour les scolaires, depuis la maternelle jusqu'au lycée. Et donc, la spécificité des projets que je porte, moi, c'est qu'en général, on travaille plutôt sur un croisement entre la question artistique et la question de la nature, la question des paysages. Ces œuvres, elles sont dans le paysage, elles ne sont pas dans un musée. Et ça raconte des choses, ça dit des choses. C'est-à-dire que les œuvres, elles ne peuvent pas aller n'importe où, n'importe comment. Autour de ces œuvres, il y a soit des prairies de fauches, il y a des forêts, il y a des sites géologiques, il y a de la vie qui est là, de la faune, des oiseaux, etc. Donc on les prend en compte dans la fabrication des œuvres. Et donc c'est aussi ce que l'on raconte dans les projets éducatifs. Et puis, depuis quelques années, je travaille sur un projet qui n'a pas beaucoup de lien avec tout ça, mais qui vient renforcer ce questionnement, cette interrogation qu'on a sur le changement climatique, dont vous avez beaucoup entendu parler, sur qu'est-ce qu'on fait pour la résilience, qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter à ce qui va arriver, à tous ces changements qui arrivent, comment on essaye de les atténuer, mais comment aussi on s'adapte à ça, et comment on informe, on éduque pour que les personnes, les habitants du territoire soient en capacité aussi de vraiment faire les bons gestes et puis de se projeter là-dessus. Et donc je porte un projet qui s'appelle l'école dehors, c'est-à-dire d'accompagner les enseignants à aller dehors avec leur classe pour faire les cours de maths, de français, de SVT, de sport, d'art plastique, tout ce qu'ils veulent, avec l'accompagnement d'un éducateur nature qui va les aider à s'emparer de la nature pour justement faire la classe.
Quelles sont les réalisations artistiques dont vous avez été chargée ? Quels ont été vos partenaires ?
Alors, j'ai eu la grande chance, comme je vous le disais, d'arriver au parc pour m'occuper de la production des œuvres du Partage des Eaux. Donc je suis arrivée quand il n'y avait rien du tout encore, et donc j'ai travaillé sur toutes les œuvres qui composent le parcours aujourd'hui, c'est-à-dire 8 œuvres, 6 sites de mire, 9 mobiliers et un GPS artistique. J'ai aussi travaillé avec d'autres artistes qui ont été invités en résidence ou en intervention ces dernières années sur des œuvres plus éphémères. Sur, par exemple, les œuvres pérennes du Partage des Eaux, la particularité donc, de mon travail donc, de production artistique, ça veut dire qu'on va essayer avec l'artiste de comprendre quels sont ses besoins, quelles sont les problématiques qui peuvent être posées par l'endroit où il veut créer son œuvre et qui on va trouver comme bonne personne pour l'accompagner. Je m'explique. Un artiste, il peut par exemple être dans son atelier, faire une peinture. Pour cela, il peut travailler tout seul. Mais s'il veut travailler, il veut créer une œuvre grande dans l'espace public dans le paysage, il va devoir comprendre quels matériaux il doit utiliser qui vont pouvoir durer dans le temps. Si vous imaginez très bien que s'il fait une œuvre en papier, par exemple, ça va être très très beau, mais au bout de 2 jours, elle sera forcément cassée. L'artiste, il n'a pas toujours une connaissance ni de ses matériaux, ni un savoir-faire pour l'utiliser. Il a peut-être fait de la peinture et de la vidéo, mais peut-être qu'il ne sait pas tailler du marbre, ou il ne sait pas comment fabriquer quelque chose en métal, ou il ne sait pas comment ancrer une structure, un bâtiment, une architecture dans le sol. Donc, en général, aujourd'hui, c'est un peu une des spécificités de l'art contemporain, si les artistes ont des projets très très variés, c'est que souvent, les artistes travaillent avec plein de monde en fait. Plein de personnes qui ont des compétences différentes et qui vont venir à un moment, sur un projet, les aider à réaliser le projet, le rêve qu'ils ont. Et donc, par exemple, ça commence pour un artiste par ce qu'on appelle une esquisse, c'est-à-dire il fait un dessin. Il dit voilà, l'œuvre que j'imagine après avoir découvert le lieu où il est invité, c'est faire un dessin et dire voilà, j'aimerais bien créer ça. Bon, très bien, mais à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fabrique ça? Il va falloir aller chercher les entreprises, faire des appels publics, des marchés publics, parce que je vous le disais, on est une collectivité publique, on ne peut pas dire, tiens, on va travailler avec l'artisan du coin. Non, il faut faire un appel d'offres pour que des gens répondent. Et puis après, si par exemple, une œuvre en pierre, par exemple, la tour à eau de Gilles Clément, il voulait la faire en pierre sèche. Si l'artisan répond en disant oui, mais en fait, c'est un petit peu compliqué, ou je vous propose par exemple que la forme que vous avez imaginée, que l'artiste a dessinée, elle soit un peu différente parce que par rapport à la prise au vent, parce que par rapport à la maintenance de l'œuvre dans le temps pour pas qu'elle bouge, pour pas qu'elle tombe, plein de choses comme ça. En fait, je vous propose de changer la forme. Ben, l'artiste va dire oui, mais enfin, quand même, moi j'avais une idée de la forme. Si l'artisan dit oui, mais en fait, la forme, il faut quand même changer parce que sinon ça va pas tenir, ben, il faut trouver des compromis. Et moi, je suis dans mon travail de production artistique, c'est aussi de voir quels sont les bons compromis. À un moment, peut-être que si l'artisan il dit ben, en fait, il faudrait que la forme elle soit ronde alors que l'artiste voulait une forme triangulaire, on va se dire bon, on arrête. Ce projet, en fait, il n'est pas possible d'aller jusqu'au bout. La proposition technique qui est faite, qui serait très bien pour maintenir l'œuvre dans le temps, en fait, elle correspond plus à l'envie esthétique et artistique de l'artiste, donc peut-être qu'il faut arrêter. Mais par contre, peut-être qu'on va se dire « Ah oui, mais en fait, c'est une bonne idée, ce qu'a dit l'artisan. L'artiste, il est prêt parce que finalement, ça a du sens dans son projet et on va pouvoir changer. » Donc en fait, c'est toujours en fait, c'est vraiment faire une sorte de presque d'ambassadeur, d'intermédiaire pour pouvoir arriver à la fin à avoir une œuvre qui se tienne, qui soit techniquement réussi et qui corresponde toujours à ce que l'artiste a voulu faire. Parce que l'intérêt de travailler avec un artiste plutôt qu'avec juste directement un ingénieur ou avec un artisan, c'est qu'il nous emmène dans des imaginaires différents. Il va faire une œuvre qui va toujours être différente de ce qu'on avait en tête. Et c'est ça l'intérêt, c'est qu'il vient nous bousculer, il vient créer des questionnements, il vient nous interroger, etc. Et c'est un peu ça la particularité du métier sur lequel je travaille, qui est donc à chaque fois une aventure différente.
Quel type de public rencontrez-vous ?
Je rencontre beaucoup, beaucoup de monde, vous pouvez l'imaginer. Que ça soit parce que, comme je vous le disais, bah, ces œuvres, elles sont installées sur des propriétés communales. Donc ça veut dire aller voir la commune, le maire, ses adjoints, pour raconter le projet, pour qu'ils soient d'accord pour qu'on puisse intervenir sur ce terrain. Je rencontre beaucoup d'habitants. Parce que les œuvres, elles sont à proximité des villages et que c'est vraiment important que les habitants comprennent pourquoi ils ont ces œuvres, que s'ils ont des questions, que si ça leur pose des problèmes, que s'ils se disent « mais à quoi ça sert ?» etc. Ou au contraire, s'ils se disent « mais c'est génial !» qu'on puisse répondre, être en échange avec eux. Je vais rencontrer aussi beaucoup de personnes qui sont dans le tourisme. Parce que pour avoir des visiteurs sur ces œuvres, il faut que les gens qui viennent en séjour sur le parc des Monts d'Ardèche, qui viennent au restaurant, qui viennent acheter un souvenir, qui viennent à l'office de tourisme, qu'on leur donne l'information s'ils ne la savent pas. Et pour ça, il faut que ses partenaires soient en capacité de le dire. Et puis, je rencontre beaucoup de scolaires, d'enseignants, pour faire des projets aussi à ce niveau-là, pour leur faire découvrir les œuvres. Et plein d'autres personnes aussi. Donc, je rencontre souvent énormément de gens.
Que propose le parc aux établissements scolaires et au tout public ? Y a-t-il un programme d'action ?
Alors, il y a un programme d'action qui est voté donc, chaque année, qui est proposé chaque année, qui est monté avec les chargés de mission et avec à chaque fois les vice-présidents. Chaque mission, finalement, chaque grand sujet de réflexion, il y a un vice-président, donc un élu qui le chapeaute et qui nous donne des grandes lignes de travail. Et chaque année, il y a un programme d'action qui est voté par les élus, qui va nous donner en fait notre programme de projet à mener. Et donc, dans le cadre de ce programme d'action, par rapport au scolaire, on a une offre pédagogique qui s'appelle les coups de pouce en particulier et qui permet de proposer aux enseignants en fait, de faire des projets avec le parc sur les actions du parc, sur des sujets sur lesquels le parc a des choses à dire. Parce qu'on a des chargés de mission, on peut être ressource, on a des partenaires pédagogiques, donc on est en capacité d'accompagner les enseignants pour faire des projets qui vont aussi loin qu'il a envie d'aller. Et puis on apporte un financement. Donc ça, pour les scolaires, il y a donc ces coups de pouce, il y a les projets d'accompagnement à l'école dehors, dont je vous parle, et puis on s'appuie sur plein d'outils qui existent maintenant, qui sont des outils financiers qui ne sont pas forcément propres au parc. Donc le parc va aussi travailler avec les partenaires, d'autres partenaires publics, comme en particulier les communautés de communes qui portent des conventions d'éducation artistique et culturelle. On peut donc monter des projets dans ce cadre-là avec les enseignants et les habitants, mais aussi le Pass Culture que vous avez dans les collèges et qu'il y a dans les lycées. Donc il y a plein de possibilités en fait, de monter des projets un peu différents avec les enseignants et les scolaires ou de vous recevoir à la maison du parc pour des ateliers pédagogiques. Et puis pour les habitants, on a tout un programme d'action, on a tout un programme en fait d'événementiel, donc de rendez-vous. On sort un agenda tous les ans avec environ 150 dates, donc vraiment sur tous les sujets qui peuvent être des visites guidées, qui peuvent être des conférences, qui peuvent être des ateliers créatifs. Il y a plein de formes différentes pour justement aller toucher ou en tout cas essayer d'aller toucher tous les publics, toujours avec tous les habitants, les touristes, les résidents secondaires, avec cette idée de leur faire comprendre l'action du parc et de les inciter, toujours dans une vision quand même de développement durable, surtout de transition écologique, à connaître le territoire pour mieux le protéger et le préserver.
Avez-vous des actions artistiques en cours ou à venir ?
Alors oui, cette année, dans le cadre de la programmation événementielle autour du partage des eaux, on travaille avec un artiste, chanteur-compositeur qui s'appelle Baptiste Dupré, qui est installé à Burzé et qui a un groupe, on va dire, qui s'appelle L'Automne. Ils sortent un nouvel album cette année et donc on va créer avec eux une itinérance musicale, c'est-à-dire qu'ils vont partir à pied de Saint-Agrève, qui est au nord du territoire du parc, et ils vont aller jusqu'à Saint-Laurent-la-Val d'Aurel, qui est au sud. Ils vont marcher le long de la ligne de partage des eaux pendant 10 jours et tous les jours, ils vont faire des concerts dans le paysage ou à proximité des villages. La particularité, c'est qu'à la fois, ils ont des chansons qu'ils ont déjà enregistrées, qu'ils connaissent, donc ils vont rejouer, mais ils sont accompagnés par un ingénieur du son qui vient capter les sons en direct dans le lieu où ils seront pour faire le concert et qui va les restituer. Donc il y aura vraiment ce travail, cette immersion dans la nature et chaque concert sera différent.
Organisez-vous des conférences avec qui et pour qui ?
Alors oui, on organise des conférences. Alors déjà, on organise des visites guidées sur toutes les œuvres du partage des eaux. Le premier et le troisième dimanche du mois, entre mai et octobre, on organise des visites guidées sur les œuvres qui sont gratuites. L'idée, c'est qu'on peut apprécier une œuvre d'art juste en la voyant, éventuellement en lisant les informations qui sont installées sur le carton d'information, le cartel juste à côté. On peut juste avoir la sensation en fait, esthétique que l'on ressent finalement chacun individuellement face à une œuvre. Et puis on peut aussi avoir envie d'aller plus loin et donc d'avoir quelqu'un qui nous raconte ce que l'artiste a eu envie de faire, pourquoi on a créé l'œuvre, etc. Donc il y a des visites guidées. Et oui, on fait aussi des conférences. Alors plus en géologie par exemple, fait souvent des conférences sur les questions géologie. Le parc est classé à un label UNESCO pour la géologie en tant que géoparc. Sur le partage des eaux, on n'en fait pas forcément beaucoup, mais cette année, dans le cadre de la fête de la science, qui est sur la thématique des océans, on va faire un projet avec l'Avène d'Orniac, la cité de la préhistoire, grand site de France. Et donc, on va faire une conférence avec eux en octobre, le 8 octobre, autour justement de cette ligne de partage des eaux, en parlant à la fois de géographie et d'art.
Comment s'organise votre travail sur une semaine ou une journée ?
Oh là là ! Alors, ça c'est très compliqué, c'est très variable. Je vous disais, j'ai donc deux choses qui sont assez différentes autour du travail sur les œuvres et autour de l'éducation, qui n'ont pas les mêmes temporalités. Ça veut dire que, par exemple, la programmation, je vous parlais du concert tout à l'heure, la programmation, elle se passe à l'été, on y travaille à partir de la fin de l'année d'avant, puis il y a toute la communication qui va être très importante en début d'année. Les projets scolaires, ils vont se travailler avec les enseignants en début d'année scolaire, et puis finalement ils vont se mettre en place surtout au printemps, puisque sur la montagne c'est le moment le plus facile on va dire pour sortir. Donc en fait j'ai des temporalités, je sais que j'ai des grandes périodes sur lesquelles je vais plus être sur un sujet ou sur un autre. Au printemps et à l'été, je suis beaucoup sur le terrain, sur la montagne ardéchoise, pour aller voir les œuvres, pour aller vérifier que tout va bien, pour aller rencontrer les partenaires, etc. À l'hiver, je suis plutôt dans mon bureau. Donc je vais avoir des grandes périodes comme ça où je sais grosso modo ce que je vais faire. Ensuite, comme tout travailleur, on va dire, j'ai des projets que je dois mener. Par exemple, je dois rendre un dossier de financement, je dois rendre un document de communication, je dois finaliser une exposition. Donc j'ai des temporalités, je sais que j'ai devant moi 2 mois, 3 mois, 2 semaines. Donc je hiérarchise les projets et les besoins. Et puis après, j'aime bien garder du temps en dehors de ça pour tout ce qui peut se passer, être un peu flexible et pas dire à quelqu'un quand on m'appelle, oui, rappelez-moi dans 3 mois parce que là, je suis très prise. Voilà, donc j'aime bien aussi garder du temps dans ma semaine où je ne sais pas ce que je vais faire, où je sais que je trouverai toujours quelque chose à faire, mais qui me permet aussi, voilà, si j'ai un collègue qui me dit, ah, mais ça serait intéressant, il y a cette possibilité-là de faire un projet ensemble, etc., de pouvoir y répondre.
Travaillez-vous seul ou en équipe ?
Alors, je travaille, donc je disais qu'au parc, on est une petite équipe par rapport à toutes les missions et tous les projets que l'on mène. Donc, on va dire que je suis seule, on va dire, sur les projets que je gère en direct. Mais par contre, j'ai des collègues sur la culture, des collègues sur l'éducation, avec elles, je vais croiser des choses et avec elles, on va partager la manière de travailler, les options, etc. Donc ça, c'est très important quand on travaille, d'avoir cette possibilité en fait d'échanger avec d'autres, parce que parfois on se retrouve comme vous peut-être quand vous êtes en train par exemple de travailler, de préparer une évaluation, et des fois vous restez coincé sur un sujet ou sur une matière en disant j'y arrive pas. Bon ben voilà. Et ben quand on rediscute avec d'autres camarades ou avec les parents ou les enseignants, en fait on arrive à débloquer ça. Et ben dans le travail c'est la même chose. Parfois il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, on ne sait pas comment le prendre, et quand on en discute avec les autres, ben on arrive à trouver une solution. Donc oui, on travaille à la fois, il y a des moments où on travaille tout seul, et beaucoup de moments où on travaille en équipe, en petite équipe proche, et puis en équipe plus large, même au niveau du parc, justement pour être tous informés de ce que l'on fait les uns les autres.
Pour exercer ce métier, j'imagine qu'il faut des qualités spécifiques. Est-ce que vous pouvez nous en lister quelques-unes ?
Alors, déjà, il faut, je pense, je vous disais, je rencontre énormément de gens, donc il faut avoir quand même le sens de la communication, de la convivialité, l'intérêt pour les autres, la capacité donc de l'écoute, mais aussi de savoir articuler, transmettre, expliciter les projets sur lesquels on travaille pour que les gens aient envie de travailler avec nous. C'est aussi la capacité, je pense, par rapport aux différentes personnes avec lesquelles on travaille, d'avoir un niveau de langage et un niveau de comprendre les attentes des uns et des autres pour pouvoir y répondre. Il y a une certaine flexibilité dans le fait d'inventer des projets à chaque fois différents qui répondent. Par exemple, par rapport aux enseignants, l'idée, c'est d'aller jusqu' le plus loin possible avec leurs demandes pour créer des projets un peu différents. Mais il y a aussi une certaine rigueur pour tenir les plannings, tenir les calendriers, tenir les budgets et je pense aussi de l'enthousiasme. Pour avoir envie toujours de réinventer de nouveaux projets.
Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ?
Tout. Tout et aussi sa grande diversité, parce que je pense que peut-être dans les métiers actuels et lorsqu'on voit les personnes qui se fatiguent finalement souvent dans leur métier, il y a des métiers très physiques qui sont une fatigue physique, mais dans le métier souvent ce qu'on peut avoir l'impression c'est de tourner en rond finalement, de faire toujours la même chose, de pas se réinventer, peut-être de ne pas s'épanouir dans son travail. Quand on a la chance comme moi d'avoir un métier aussi palpitant, on rencontre plein de gens à chaque fois qui nous ramènent des choses intéressantes et où on a autant de diversité. Et donc je peux changer de sujet finalement d'une heure à l'autre, d'une demi-journée à l'autre. On est toujours en train de se réinventer, de se re-questionner et ça fait des métiers palpitants.
Y a-t-il des inconvénients ?
Alors, tous les métiers ont des points positifs et des points négatifs. Travailler sur les budgets, ce n'est pas forcément la partie qui est la plus drôle. Quand on a des deadlines, quand on nous dit, voilà, il faut absolument rendre ce projet, rendre les informations, faire les bilans, etc. Il y a toujours des moments où on est un peu en stress pour finir quelque chose. Il y a souvent des moments où on est en train d'imaginer un projet avec des partenaires et puis on se dit, comment est-ce qu'on va y arriver ? Donc, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'inconvénients, mais en tout cas, oui, il y a des moments où on se dit peut-être qu'on aimerait bien être ailleurs ou que quelqu'un d'autre nous aide, etc. Mais ça, c'est très minime, on va dire, par rapport aux avantages ou en tout cas au plaisir que l'on trouve dans ce travail.
Concernant votre parcours, quelle étude avez-vous suivi et pour quel diplôme ?
Alors, moi j'ai donc commencé par faire des études d'art. J'avais fait donc à mon époque, il existait un bac qui s'appelait le bac S, qui en fait était un bac scientifique, comme ce que vous pouvez faire maintenant avec les spécialités, par exemple, maths et physique, moi, c'est ce que j'avais. Mais j'avais gardé comme option l'art plastique, parce que ça me plaisait beaucoup. Et donc, à l'université, je suis allée en fac d'art plastique, et là, j'ai découvert quelque chose, une matière que j'avais jamais rencontrée, qui était l'histoire de l'art. Non pas seulement la pratique, finalement, artistique, le fait de faire du dessin, de faire plein de formes artistiques, mais vraiment de comprendre et de découvrir ce qu'avaient fait les artistes avant, pourquoi, etc. Et ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Donc, je suis allée un petit peu plus loin là-dedans. Et donc, j'ai ce que vous appelez maintenant, je crois, un master 2, excusez-moi, ça a changé les terminaisons entre-temps. Donc un master 2 en histoire de l'art et j'ai un master 1 en esthétique. L'esthétique, c'est la philosophie de l'art et de la question du beau en général. Voilà. Ce sont des études qui sont très théoriques. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait dans les études, en fait, c'était étudier, c'était découvrir des choses, mais je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire comme travail. Et il se fait que j'ai rencontré des gens dans ce qu'on appelle les fonds régionaux d'art contemporain, qui sont des lieux qui sont à la fois des centres d'art où on fait des expositions et qui sont des lieux qui ont une collection d'œuvres qu'ils vont présenter, exposer en région. Et à partir de là, j'ai commencé à faire de la coordination d'exposition. La coordination d'exposition, ça veut dire que là encore, on assemble plein de personnes différentes pour monter ensemble des projets. Et en particulier, moi, j'étais en charge de faire des expositions à l'étranger, voilà. Et à partir de là, ça m'a beaucoup plu et je me suis dit que c'était ça que je voulais faire comme travail. Et puis, à un moment, j'ai entendu parler du projet du partage des eaux que portait le parc. Ça m'a beaucoup intéressée. Je me suis dit que c'était un peu différent de ce que je faisais et surtout que j'allais sortir du musée. Quand je travaillais dans les fracs, j'étais dans un centre d'art, dans un musée, dans lequel on faisait des projets et le public venait dans ce lieu-là. Ce qui m'a vraiment intéressée avec le projet du parc, avec le partage des eaux, c'était de faire des œuvres dans le paysage. Et finalement, le public, les visiteurs, ils ne savent pas forcément qu'il y a des œuvres. Ils tombent dessus, pour certains, par hasard. Et donc, c'est très important d'être là pour être à leur écoute, en dialogue, donner assez d'informations pour justement pouvoir répondre à leurs questions. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément intéressée. Et c'est comme ça que j'y suis arrivée. Mais mes études n'avaient pas forcément comme conséquence d'avoir le travail que j'ai aujourd'hui.
Nous voudrions savoir maintenant si le parc recrute et quel type de profil vous intéresse.
Alors oui, le parc recrute, pas d'une manière forcément régulière. On a une équipe qui n'est pas très importante, je vous disais. Et puis, comme on est dans une ambiance de travail qui est vraiment très intéressante, avec des missions qui sont passionnantes, en général, les chargés de mission, les salariés, n'ont pas forcément envie de partir. Donc, quand ils ne partent pas, il n'y a pas de poste qui s'ouvre. D'accord. Mais oui, on recrute d'une manière... Enfin, on recrute. Alors, on recrute sur toutes les missions dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que ça peut être à la fois donc, sur de la culture, mais ça peut être aussi à la fois surtout sur de la protection du patrimoine, naturel, d'accord, avec, par exemple, des spécialistes de la nature et donc des naturalistes, par exemple, mais aussi ça peut être des géologues ou ça peut être surtout des administrateurs ou des gens qui vont être sur la comptabilité ou sur les ressources humaines. Ça peut être sur des paysagistes. Il y a vraiment plein de possibilités différentes, mais c'est vrai qu'on ne recrute pas d'une manière forcément régulière. Ça va dépendre des périodes et des besoins.
Acceptez-vous des stagiaires, des stages et à quel type de public ?
Alors oui, on prend beaucoup de stagiaires, surtout donc au niveau plutôt master 1 et 2. Donc ça va être des stages, alors là qui sont souvent, pas que, mais c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de stagiaires qui sont intéressés par justement la question de la protection des espaces naturels et des espèces, puisque c'est vrai que un parc naturel régional, souvent il est surtout connu pour cette dimension-là de la protection, de la sauvegarde. Donc on a beaucoup de stagiaires qui viennent pour faire des diagnostics, pour travailler travailler sur des espèces un peu emblématiques et spécifiques du territoire, vérifier où elles en sont dans leur présence, parce que ça permet aussi de savoir comment la biodiversité se porte sur nos territoires. Mais on a aussi des stagiaires sur la géologie. Je vous disais qu'on avait un label UNESCO, et donc on a beaucoup d'actions d'inventaire, de connaissances et de valorisation de sites géologiques. On a des stagiaires en communication. Donc on a des stagiaires sur plein de sujets. On a des stagiaires qui sont des stagiaires donc en master 1 et 2 qui vont être là sur 3 mois, 6 mois en fonction de leurs besoins et puis des missions qu'on peut leur confier. Et puis on a aussi des stagiaires qui viennent en observation en troisième, en seconde maintenant. Donc on prend aussi des stagiaires sur une semaine, justement aussi plus pour leur faire découvrir comment fonctionne un parc et leur faire suivre nos missions. Donc à ce moment-là, ils sont plutôt en observateur, mais on essaye de les prendre à des moments où on a beaucoup de terrain pour qu'ils puissent voir aussi ce qui se passe sur le terrain, mais aussi des réunions de bureau pour qu'ils puissent comprendre un peu comment tout ça se passe. Et puis on a des services civiques que l'on a surtout sur l'entrée éducation et qui nous aide à recevoir justement les scolaires et à présenter le parc dans les établissements scolaires du territoire.
Quelle a été votre plus belle rencontre lors de vos actions artistiques ?
Oh, ça c'est difficile. Il y en a eu tellement... Il y en a eu tellement que là, comme ça, il n'y en a pas une qui me vient en tête directement. Moi, peut-être une des choses qui m'a beaucoup frappée, c'est que, par exemple, par rapport aux œuvres que l'on a installées, c'était de rencontrer des gens, en fait, des habitants des villages autour de d'une œuvre ou d'une autre qui venaient me voir en me disant oh, « notre œuvre à nous, c'est la plus belle ». Et ça m'a beaucoup frappée aussi dans ce rapport finalement que l'on pouvait avoir à créer avec une œuvre, comment on pouvait se l'approprier, comment ça devenait les patrimoines d'aujourd'hui aussi. Mais chaque journée, chacune de mes journées est pleine à chaque fois d'une nouvelle rencontre et d'un émerveillement. Donc c'est vrai qu'il y en a tellement que c'est difficile de choisir.
Merci Madame Jacques-Chamska de nous avoir fait découvrir le métier de production artistique et de sensibilisation au territoire, au Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche. C'était Ambre et Mélissa à l'interview et Milana à la technique, élève de 4e 6 au Collège Saint-François d'Assise.
Merci à vous.
C'était
La Voix des Jeunes.
Un programme radiophonique réalisé en partenariat avec les établissements scolaires d'Aubenas et de sa région.